Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous et merci d'être devenus fidèles à Nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM. Aujourd'hui, nous allons rester proches de l'actualité. En cette semaine de mars, eh bien, fêtons l'arrivée du printemps. Le Salon Primavera a fait le plein de visiteurs. 2 ans de Covid, une 3e année marquée par un énorme orage. Cela faisait 3 ans que les accros aux plantes étaient privés de cet événement annonciateur de renouveau organisé par l'Université de Montpellier. Il attire à chaque édition, depuis 2004, entre 6 000 et 8 000 visiteurs. Primavera 2023, ce fut comme d'habitude l'occasion de partager des compétences avec plus d'une 60aine de professionnels, associations, centres de recherche et collectionneurs. Mais la sécheresse et le réchauffement climatique étaient devenus une réalité tangible. Et dès l'ouverture du Jardin des Plantes, le plus ancien jardin botanique de France, les succulentes, les cactées, les vivaces rassemblaient les adeptes, tandis que le stand des rosiers faisait un peu grise mine. Le public ne s'y trompe pas, les temps ont changé et les jardins vont devoir en prendre la mesure. Et cette année particulièrement marquée par la sécheresse, les visiteurs étaient en mal d'information. Ce fut l'occasion de partager des compétences sur des stands de pépiniéristes présentant, entre autres, des plantes potagères, aromatiques, médicinales, d'intérieur ou des plantes grasses. Et parmi les stands associatifs, on retrouvait celui des botanistes de Lecière, mais aussi celui de la Garance Voyageuse. Alors, bonjour, Ruc Ferrand.
Bonjour.
Vous êtes un des représentants montpelliérains de ce réseau associatif qui édite la revue Voyageuse. Alors, la revue Garance Voyageuse. Quand a commencé cette aventure ?
Alors oui, représentant, oui, puisque je suis le président, donc c'est un bon représentant, me semble-t-il. Et ça fait plus de 33 ans que la Garance Voyageuse existe et que nous essayons de vivre, de faire vivre l'association. Au départ, ce sont quelques amis qui se sont réunis autour d'un lycée agricole en Corrèze, et puis avec des objecteurs de conscience également pour montrer voilà aussi la marque de cette fondation. Et ils ont décidé de créer une revue, avec les moyens du bord de l'époque, très rudimentaire, hein, revue renéotypée, hein, vous voyez, avec quelques dessins.
J'aime bien, c'est un peu comme, il y a la Hulotte aussi,
oui,
sur,
mais nous étions,
dans les Ardennes.
Nous sommes frères, si je puis dire.
D'accord.
Ou sœurs, si on parle des revues, hein, en termes de... Et puis, au fil du temps, la migration s'est opérée, parlant du siège social de l'association, vers le parc national des Cévennes, vers un village des Cévennes qui s'appelle Saint-Germain-de-Calberte, qui est un tout petit village situé sur le chemin de Stevenson.
Alors, on rappelle, hein, Stevenson, c'était le monsieur qui a fait un long chemin avec son âne.
Voilà, qui s'appelait Molestine. Voilà. Et donc la publication de la revue finalement constituait la principale activité de l'association, avec une volonté bien entendu de partager des connaissances, de faire connaître la richesse florale et de défendre des territoires naturels face déjà à de nombreux projets destructeurs de ces zones naturelles. Aujourd'hui, nous publions 3000 exemplaires de la Garance Voyageuse 4 fois par an et nous organisons également des stages de botanique pour les activités principales de l'association.
Alors, on va en reparler. Alors, j'aime beaucoup votre devise « Comment admettre comme patrimoine ce dont on ignore, dont on ne reconnaît pas l'intérêt, voire l'existence ? Comment préserver ce qu'on ignore ?» Et ce fut, à n'en pas douter, la raison de cette revue.
Oui, absolument. Donner des clés de compréhension de notre environnement, et plus spécifiquement de la botanique, puisque nous sommes dans la défense du monde végétal, afin que chacun puisse être autonome pour nommer les plantes de son entourage, voire plus découvrir ses usages, comprendre les mécanismes de reproduction et de survie des plantes afin de mieux appréhender notre monde et les protéger. L'artificialisation des sols que nous voyons aujourd'hui et l'urbanisation très intense de nos grandes métropoles conduisent à faire disparaître de nombreuses espèces par suppression de leurs habitats.
Alors, est-ce que c'est important de savoir nommer les plantes ?
Je crois que c'est important pour pouvoir mieux les protéger. C'est-à-dire quand on apprivoise notre environnement, quand on connaît le mode de vie de cet environnement, on est beaucoup plus sensible à leur maintien et à leur préservation.
Très bien. Alors, donc, connaître, savoir, hein, et puis alors partager des inquiétudes.
Oui, également parce que, comme je disais, l'urbanisation des grandes métropoles supprime de nombreux habitats et donc forcément fait disparaître des espèces. Et même s'il y a un affichage de planter des milliers et des milliers d'arbres dans les grandes villes, comme on le voit aujourd'hui, planter des arbres, c'est bien, mais sauvegarder les vieux arbres, c'est complémentaire et indispensable.
Alors, il y a Francis Allais qui est sans doute à vous entendre, qui va être tout à fait d'accord.
C'est un de nos soutiens, d'ailleurs.
C'est un de votre soutien. Il dit toujours, on ne doit pas couper un arbre, on doit le soigner. Alors...
Oui, complètement. Alors, il ne faut pas non plus être dogmatique. C'est-à-dire que, bon, si on prend l'exemple de cas récent sur la place de notre place de la Comédie à Montpellier, des platanes ont été coupés et on peut voir très nettement que les arbres étaient malades puisqu'ils sont complètement creux et il y avait un risque pour la population. Donc, il faut faire très attention. Il faut prendre soin de nos arbres, surveiller d'un point de vue phytosanitaire ces arbres de manière à ce qu'ils ne comportent pas de risque pour la population.
Alors, vous savez aussi qu'il y a d'autres contraintes actuellement. Par exemple, devant le Jardin des Plantes, justement, il y avait des platanes qui étaient malades. La mairie de Montpellier a essayé de les remplacer par d'autres espèces et ils se sont heurtés aux représentants du patrimoine qui leur ont dit « Ah mais... attention, le platane, c'est l'arbre méditerranéen, il faut le sauvegarder. »
Oui, alors c'est l'arbre méditerranéen, pas tout à fait, puisque le platane a été importé à la fois d'Amérique et à la fois d'Asie, et avec des hybrides. Donc ce n'est pas forcément un arbre de chez nous. Par contre, peut-être que le micoucoulier de Provence est davantage adapté à notre climat. Et d'ailleurs... la métropole et le premier adjoint à l'urbanisme, Stéphane Jouan, avec qui j'en ai parlé, disait qu'il allait remplacer progressivement un certain nombre de platanes par d'autres essences, d'autres espèces qui résistent mieux à la sécheresse et au climat véritablement méditerranéen, tout en respectant pour autant les instructions évidemment des Bâtiments de France et du classement des allées des arbres qu'on connaît à Montpellier.
Alors, ça veut dire que, bien sûr, il va falloir éduquer un peu les gens. Alors, ce que j'apprécie aussi dans la carence voyageuse, c'est cette volonté de faire connaître le monde végétal. Voilà, très tôt, vous allez quitter un peu la biodiversité locale pour celle du monde. J'ai regardé les anciens numéros de la carence, on part très loin.
Oui. Oui, absolument. Mais la biodiversité est partout et à l'image d'un programme de sciences participatives qui a été mis en place par Tela Botanica, qui est une association, qui est un réseau de botanistes francophones dont nous sommes fondateurs, Garance Voyageuse, Sauvage de Marus, c'est l'observation de la biodiversité au pied de son immeuble, au pied de sa maison, sur son trottoir. Donc elle est bien présente chez nous. Pour autant... notre vue s'est ouverte sur le monde car tous les scientifiques qui rédigent les articles dans la Garance Voyageuse sont de par le monde. Et de plus, les familles de plantes qui sont bien évidemment mises en avance sont présentes dans le monde également,
avec
différentes espèces. On peut prendre les eucalyptus, hein, si on traite des eucalyptus ou si on traite des euphorbes. On a quelques euphorbes chez nous, mais la famille des euphorbes est très nombreuse et on va trouver des euphorbes de différentes tailles et de différentes morphologies dans des pays, soit d'Asie, soit d'Afrique, par exemple.
Et alors, quelle est votre position, par exemple, à la Garance Voyageuse par rapport à ce qu'on appelle, à ce que l'UICN appelle des envahissantes,
hein? Ah. Alors, nous avons depuis les plantes voyagent, Voilà, il faut retenir ça. Alors, elle voyage comment ? Elle voyage par l'air, elle voyage par la mer, elle voyage par les animaux et elle voyage par les humains. Depuis à peu près le 16e, 17e siècle, nous avons eu énormément d'explorations sur tous les continents de la planète. Alors, si on peut citer évidemment la Pérouse, pour citer quelques noms connus, Bougainville avec Barrett et Commerson, on peut citer bien entendu Humboldt et son ami Bonpland.
Et tout ça, ça nous a amené...
Tout ça nous ont amené des espèces qui sont maintenant très bien acclimatées depuis 16e, 17e siècle, dans les grands jardins que nous connaissons.
Mais là, ce n'est pas des envahissantes.
Alors, non.
Des voyageuses.
Complètement. Mais nous avons poursuivi à importer des plantes parce qu'elles avaient un intérêt particulier. Si on prend le raisin d'Amérique, Phytolacca, on l'a importé parce qu'il servait à colorer le vin, par exemple. Bon, donc cette plante, à un moment donné, a servi et puis est partie coloniser au-delà des plantations qui étaient faites. Et donc, on a des plantes comme ça qui se sont petit à petit adapté.
Regardez l'agapanthe, par exemple.
Oui, aussi l'agapanthe, mais aussi on a évidemment le sénesson qui arrive avec avec les graines, arrive avec des caisses ou avec des pots, etc., avec des poteries. Donc on voit que les plantes sont capables de migrer, soit parce que c'est leur mode de reproduction, soit parce que c'est... Elles sont transportées, elles utilisent un transport gratuit.
Alors, Gilles Clément dit que ces plantes qui voyagent et qu'on désigne finalement comme des envahissantes et que l'UICN essaie de... Je rappelle, l'UICN, c'est l'Union de conservation de la nature à échelle internationale, essaie d'éradiquer parce qu'elles ont souvent un effet sur la biodiversité locale et ça coûte très très cher de les éradiquer. Et donc Gilles Clément dit laissez-les vivre parce que l'ancienne plante reviendra un jour.
Oui, on observe, je pense qu'il ne faut pas non plus, comme vous le dites, les plans d'éradication des plantes envahissantes exotiques sont parfois nécessaires, comme l'ambroisie, parce qu'elle provoque un certain nombre de désagréments chez les personnes. Donc il faut faire la part des choses entre la gêne occasionnée par un envahissement d'une plante et le développement d'une plante, parce qu'elle s'adapte à des environnements qui, finalement, dans lesquels ne poussent pas d'autres plantes. Les landes, par exemple, glanduleux, poussent sur les bords de chemin, ça gêne personne, il n'y a pas de plantation, il n'y a pas d'irritation chez les personnes, etc. Mais elles s'adaptent très, très bien. Mais dès lors que il y a une nature qui se développe, on voit que les espèces peuvent également revenir, les espèces indigènes peuvent également revenir. Voilà.
Très bien. Alors, il y a quelques années, on avait fait un reportage sur les cueilleurs en France. À la fois, on a découvert qu'il existait une importante législation qui avait été liée justement au Muséum d'Histoire Naturelle. 450 plantes sauvages avaient été listées, elles étaient en danger, et 150 étaient interdites de ramassage. Mais on est resté étonné pendant ce tournage par certains manquements. J'ai vu par exemple à Rungis des mousses qui avaient mis plusieurs centaines d'années à se développer, qui étaient vendues au même stand que les mousses renouvelables, des mousses en coussin, vraiment qui avaient mis des années à pouvoir qui étaient vendues au moment du 1er mai pour 10 euros, 20 euros, enfin, invraisemblable. Et puis j'ai vu des cueilleurs aussi qui venaient d'ailleurs et qui venaient récolter des plantes qui étaient interdites chez eux. Alors on a vu par exemple que les lichens étaient aujourd'hui excessivement réglementés, les lichens qui participent de la parfumerie. Alors, on assiste, depuis un certain temps, à une surenchère de cette exploitation de la cueillette des plantes sauvages du fait du développement des produits cosmétiques, médicaux, bio, enfin tout ce qui est un peu homéopathie. Toute cette mode du naturel. Et écoutons Thierry, qui est cueilleur professionnel et que nous avons rencontré dans le Massif central.
Je suis agriculteur, spécialisé en plantes aromatiques et médicinales. J'ai commencé à m'intéresser aux plantes il y a une quinzaine d'années, d'abord pour pour un plaisir personnel. Et puis c'est bon, petit à petit, c'est devenu un métier. Ça, c'est la fougère. Mais ça, celle-ci, on la trouve, elle est en train de parasiter les racines certainement du noisetier. Je pense que c'est de ce noisetier. C'est la latrée clandestine, on l'appelle. Le métier de cueilleur tel qu'il se pratique aujourd'hui, donc c'est quelque chose qui a failli disparaître dans les années 60, 70. C'est vrai qu'il y a eu un trou. Jusqu'à la dernière guerre, il y avait pas mal de cueillettes, surtout dans le Massif central, d'ailleurs, c'était la zone où il y avait plus de cueillettes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a failli disparaître. Bon, il y a une renaissance là, en même temps que l'intérêt pour la nature, pour l'environnement, qu'on peut sentir depuis à peu près 68, 70. Quoi. Ce qui se passe, c'est que traditionnellement, la cueillette se faisait par des gens très locaux. Maintenant, ça se passe un peu différemment. C'est souvent des équipes de saisonniers qui sont embauchés. Mais c'est vrai que les gens qui ramassent ne sont pas spécialement des locaux et n'ont forcément pas le même regard par rapport à leur terrain. Quoi.
Cette plante, c'est la dorine, on l'appelle. C'est Chrysospenium, c'est son vrai nom. Alors, c'est une petite saxifrage qu'on trouve dans les endroits humides où il y a toujours un ruissellement. Il ne faut pas que ça sèche. Et donc, il y a deux espèces en France. Et donc, bon, bah là, c'est presque quelque chose que j'aurais pas dû faire. Enfin, bon, j'en prends une. Hein. Mais celle-ci est une espèce très rare. Et malheureusement, bah, des fois, il y a problème de confusion au niveau de la cueillette pour les gens qui ne connaissent pas bien ou approximativement la botanique. C'est pour ça qu'à mon avis, pour le métier de cueilleur, il faut une formation botanique sérieuse, quoi.
Pour les grands groupes ou les gros laboratoires, c'est des gens avec qui j'ai travaillé au début, quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années. J'ai pas pu continuer parce que c'est des gens qui ont besoin de grosses quantités de plantes à un prix souvent très bas. Donc par rapport à la façon dont je veux travailler, c'est pas possible. Il y a à peu près 3 ans, donc sur le sud du Massif central, des gens qui ont fait passer une petite annonce dans la presse locale, où ils voulaient ramasser de la drosera, et c'est parti comme ça, 80 kilos de drosera. Alors en Allemagne, on n'a pas pu savoir où exactement ni qui, les gens étaient partis, c'était trop tard. Ils ont tout simplement garé leur camion au pied de l'église, et puis les gens ont apporté la drosera. La drosera, c'est une petite plante carnivore qui est sur la liste nationale, hein, qui est protégée, qui est haute comme ça. 80 kilos, c'est des dizaines de milliers de plantes qui sont parties pour faire du sirop contre la toux.
Alors, Hugues Ferrand, on voit que finalement, il y a aussi des risques à accueillir les plantes naturelles. Donc, je suppose que vous organisez des stages, vous faites des formations et que c'est très important.
Ah oui, complètement. Alors, on s'inscrit totalement dans la protection, évidemment, des plantes qui sont protégées. Et lors de des stages botaniques que nous organisons 4 fois par an ou des sorties en dehors de ces stages, nous indiquons toujours si nous sommes en zone de protection ou si les plantes que nous allons voir sous un statut de protection particulier. En général, il n'y a jamais de cueillettes quand nous organisons les stages, sauf quand elles sont très communes et très abondantes, et pour un herbier par exemple, mais en très très petite quantité. Mais dans les parcs et en zone de montagne par exemple, il n'y a jamais de ramassage parce qu'on sait qu'elles sont fragiles, l'écosystème est fragile et nos stagiaires sont sensibilisés dès le départ, dès leur inscription.
Donc on a une législation qui s'est renforcée.
Ah, complètement, complètement. Et je crois qu'il y a une vraie sensibilisation des personnes et les gens font de plus en plus attention à la cueillette et à ne pas cueillir là où ils ne doivent pas cueillir. Et on sensibilise également les enfants lors de nos sorties.
Alors, merci Hugues Ferrand. Bien sûr, on n'a pas abordé toutes les questions que la Garance voyageuse aborde. Vous êtes venu nous parler de vos expériences. Je rappelle que la Garance voyageuse est membre de France Nature Environnement et vous pouvez suivre son activité sur son site Garance voyageuse tout attaché @orange.fr. Alors, il nous reste un peu de temps pour évoquer la semaine de travail qui vient de se dérouler à Interlaken, en Suisse. Alors, on change complètement de sujet pour établir une synthèse de 10 000 pages, les rapports du GIEC. Donc, les experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat des Nations Unies s'étaient réunis. Alors, je rappelle que le GIEC a été créé en 1988, il a commencé à publier en 90, puis un autre rapport en 95, en 2001, en 2007 et en 2014. Donc, 5 rapports ont été publiés et sont connus. Donc, finalement, une synthèse, ça veut dire qu'on n'a rien à attendre de nouveau. Le 6e rapport, c'est la mise en avant des urgences, parce que en 10 ans, évidemment, les choses se sont précisées. et qu'elles doivent, ces urgences doivent désormais guider la décision des décideurs politiques. Alors, la synthèse, bien sûr, a confirmé, courbe à l'appui, ce que dit le rapport 1, que l'homme est responsable du réchauffement climatique, que ce réchauffement climatique est généralisé, rapide, d'une intensité croissante. Le rapport 2 souligne la nécessité de s'adapter à des changements déjà en cours dans toutes les régions du monde, tandis que le rapport 3 fait naître l'urgence de l'action. Enfin, on a eu les derniers rapports qui sont encore plus graves, puisque le 4 et le 5 nous signalent les conséquences irréversibles de ce réchauffement. La disparition de certains écosystèmes, la montée des eaux, les canicules, enfin tout ce que nous voyons maintenant. Mais finalement, il a fallu un peu 10 ans avant que nous acceptions de regarder les choses en face. Alors la question à laquelle les décideurs doivent répondre donc à la suite de ce rapport, c'est la menace climatique est-elle assez forte pour justifier une politique drastique et volontaire de privation de l'usage massif des énergies fossiles, le charbon, le gaz, le pétrole, dont l'essentiel de l'énergie utilisée pour la vie économique et quotidienne de nos sociétés. Donc cette demande d'expertise des gouvernements, eh bien maintenant, finalement, c'est en route. Et c'est une dimension économique, sociale, politique. C'est par cette dimension économique, sociale et politique qu'il faudra répondre à la question qui est posée. Les rapports complets du GIEC sont rédigés et adoptés par les seuls scientifiques. Les résumés qui sont faits pour les décideurs sont adoptés phrase par phrase lors des assemblées plénières, mais par définition, ils ne peuvent rien contenir qui ne soit écrit dans les rapports scientifiques. Alors, le résultat est assez spectaculaire parce que dans toute l'histoire du GIEC, donc 88 à aujourd'hui, aucun gouvernement n'a osé donner mandat à sa délégation pour voter contre les résumés. Cela peut sembler incroyable, étrange même, mais ni les gouvernements d'Arabie Saoudite, ni ceux des climato-sceptiques notoires comme les Bush aux États-Unis n'ont osé le faire. Leur pays, comme tous les autres, sont co-signataires de ces textes. Donc, il est difficile d'espérer une victoire plus totale pour les scientifiques. Malheureusement, cette victoire, elle porte sur le constat et le GIEC ne peut rien recommander. Cela lui est interdit par sa mission, qui est donc limitée aux informations pertinentes pour la décision et qui ne s'étend pas à des prescriptions. Donc, souvent, vous entendez des gens qui disent... le GIEC a dit ceci, le GIEC prévoit cela, le gouvernement ne le fait pas. Eh bien, parce que le GIEC ne peut pas donner vraiment des prescriptions. Alors, dans son journal « L'usine à GES, à gaz à effet de serre », le rédacteur en chef, Valérie Laramé, nous aide un peu à lire entre les lignes. Si le GIEC ne doit en aucun cas mettre en exergue, par exemple, une source d'énergie par rapport à une autre... Il fait passer certains messages entre les lignes. Par exemple, le nucléaire n'est pas cité pour décarboner rapidement, alors qu'on retiendra que l'éolien et le photovoltaïque ont un potentiel de décarbonisation 10 fois supérieur à celui de l'atome. Voilà, donc, il faut savoir lire le rapport du GIEC. Parfois, on ne retrouve pas certaines prescriptions dans le résumé pour décideurs. Par exemple, dans les rapports longs, on voit que les démocraties sont privilégiées en termes de gouvernance. On ne le retrouve pas dans les rapports qui sont ceux des décideurs. Alors, comme on dit au cinéma, maintenant, action. Parce qu'il y a urgence hein, et que le monde est aujourd'hui à près de 1,2 degré de réchauffement, que la multiplication des événements extrêmes prédites par les premiers travaux du GIEC se produisent sur tous les continents, et que finalement, ce sont les flux financiers qui vont décider des capacités d'adaptation. Et pendant les 10 ans qui viennent, eh bien, le GIEC va se taire. Donc, on sait maintenant qu'il va falloir s'y mettre. Alors, Hugues Ferrand, vous êtes prêt?
Oui, alors ce rapport nous inspire beaucoup de choses, bien évidemment, mais nous encourage surtout à continuer à poursuivre notre action vis-à-vis de l'éducation des enfants, d'abord pour leur apprendre la nature et les plantes, deuxièmement vis-à-vis des parents, pour les accompagner à s'informer et à prendre conscience de leur environnement, et enfin, restons mobilisés vis-à-vis des institutions, en tant qu'association, en tant que particulier, en tant que comité de quartier, pour pouvoir toujours promouvoir cette belle nature qui nous entoure. Merci à vous.
Je suppose qu'on aura l'occasion d'en reparler ensemble. Merci Hugues Ferrand. Et puis à bientôt. Et je conseille donc à tout le monde de lire et de relire La Garance voyageuse. Il y en a un par saison.
Voilà.
Un numéro par saison.
Tout à fait. Et un numéro spécial en fin d'année.
Merci. Merci à tous nos auditeurs. À bientôt.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.